J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein.
C'est vraiment un AVC.
Vous voyez, c'est un film bouleversifié.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. Get out.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor, et ce soir nous sommes en public et en direct et en extérieur sur la chaîne YouTube de Transistor Web Radio pour lancer cette troisième saison déjà, que le temps passe vite, et j'ai le plaisir, je dirais même le bonheur d'être accompagné pour cette reprise par Aubry, que vous connaissez, chers et chères auditeurs habituels, et que vous allez connaître pour les autres, et par la nouvelle voix de Badis.
Bonsoir
Badis, en attendant de vous faire entendre au fil des épisodes à venir, et ça va recommencer dès la semaine prochaine, les nombreuses et nombreuses autres critiques qui nous ont et nous aurons rejoints ici à la tribune. Mais sans plus attendre, commençons cet épisode 51 qui nous ramène à Cannes, en fait, hein, où Transistor a, comme qui dirait, passé son été avec la publication sur plusieurs mois de la longue rétrospective, en 9 épisodes tout de même, que vos critiques Clarisse, que vous venez d'entendre, Aubry et Mélusine ont consacré à leur virée au Festival de Cannes, donc en mai dernier. À Cannes, donc, où il a reçu le prix du jury, et ça a son importance, le prix de la meilleure musique de film, on a pu découvrir Sirat, le film du réalisateur franco-espagnol Oliver Lache, déjà auteur de quelques longs-métrages, mais dont c'est le premier qui atteigne un aussi large public et suscite surtout d'aussi nombreux commentaires. Car Sirat est un film qui ne peut pas vraiment laisser indifférent, pardon, que l'on aime ou que l'on déteste, et nombreuses sont les raisons de détester ou d'aimer. La réaction des spectateuristes à ce film est souvent à vif. Mais avant d'en parler, disons brièvement de quoi ça parle au juste Sirat. Dans le désert marocain, on assiste, c'est le premier plan, à la mise en place d'une rave party, à l'érection d'immenses enceintes au milieu de nulle part, autour desquelles arrive un nombre toujours croissant de danseurs et de danseuses venus dans la perspective de trouver dans ce son assourdissant l'oubli de leurs pensées, de leur corps, d'eux-mêmes, ou de l'étrange guerre dont on ne cesse de percevoir les échos plus ou moins diffus en arrière-plan du film, tantôt à la radio, tantôt en croisant une colonne de soldats. Mais cette guerre, et on pourra y revenir, n'est pas le cœur du film, hein, qui suit plutôt la quête de Luis, incarné par Sergi Lopez, à la recherche de Mar, sa fille, avec qui il n'a plus de contact depuis 5 mois. Alors, est-ce qu'elle a fugué? Est-ce qu'elle a juste disparu? C'est pas non plus résolu. Luis est accompagné de son jeune fils Esteban, avec qui il distribue vainement des tracts aux ravers, qui, malgré leur bonne volonté, sont bien incapables de l'aider à retrouver sa fille. Finalement, il rejoint un groupe un peu cosmopolite, enfin, tous occidentaux, français, britanniques, espagnols, auxquels Esteban et lui se greffent lorsqu'ils décident de se rendre à une autre fête, plus au sud, à la frontière avec la Mauritanie, qui devient bientôt un horizon lui aussi diffus. Avec ce groupe, donc, il y a Bidi, Jade, Tonin, Steph, qui sont incarnés par des acteurs et des actrices non professionnels, qui jouent en quelque sorte leur propre rôle. Avec eux et elles, donc, déserteurs et déserteuses de la société, Luis et son fils s'enfoncent de plus en plus dans les profondeurs métaphysiques de l'espace si singulier que filme Lache, continuellement en plein air, alors que la recherche de Mar devient de moins en moins présente et que le temps se dilate sous le soleil de plomb du désert marocain. Difficile d'en dire plus sans trop spoiler un film qui fonctionne par sa force esthétique autant que par ses choix narratifs radicaux et extrêmes et qui en laisseront sans doute plus d'un ou plus d'une choqué, dégoûté ou en colère face au film. À juste titre, ce sera à vous de me le dire. Parce que personnellement, il me semble que Sirat mérite l'accueil enthousiaste qu'il a rencontré à Cannes et qui l'aura moins rencontré évidemment quand il a été exposé à un plus large public. Tant j'ai été frappé personnellement par sa force choquante, certes tantôt vaine, tantôt intelligente, par son envie de créer des images qui restent, comme par son désir de filmer le son, aussi impossible que cela puisse paraître. Assez sensible aussi en général à tout ce qui est anéantissement de soi-même, engloutissement par quelque chose de plus grand, j'ai beaucoup aimé le tournant spirituel que prend le film, correspondant en cela à son titre, le Sirat étant dans les textes saints de l'islam un pont très étroit suspendu au-dessus de l'enfer que devront traverser les hommes au jour du jugement dernier, ainsi que l'explique un petit carton en introduction du film. Mais bon, tout cela, on va être amené à en rediscuter avec vous, Badis et Aubry. En attendant, Aubry, je me tourne vers toi. As-tu aimé et selon toi, faut-il suivre ses rêves ? Je suis navré pour ça.
T'étais pas obligé. Alors, je vais répondre oui et non. Parce que j'ai bien aimé et pas aimé en même temps, et que, mais quand même, oui, il faut suivre ses rêves. Je pense que le film vaut largement le détour. Si, enfin, il est en tout cas parmi les films de cette rentrée qui valent le déplacement dans une salle de cinéma, et vraiment, j'insiste, dans une salle de cinéma. On va commencer par les points positifs. Je trouve que c'est un film qui, techniquement, est vraiment très bien fait. Il n'y a rien à redire là-dessus. Lache, il a un vrai talent de metteur en scène. C'est globalement très bien fait. Les personnages sont bien écrits, c'est-à-dire non seulement attachants, mais en fait écrits avec une vraie tendresse. Et ce qui fait que l'écriture de tel personnage devient intéressante, parce qu'on n'est plus sur le simple canevas régulier d'un père qui cherche sa fille. Mais on a ces personnages de rêveurs, qui sont un peu écrits, mais on le rappelle, joués par des acteurs et actrices non professionnels et qui en fait sont vraiment des rêveurs dans la vraie vie, quoi. Et ça fait que bah, dans toute, on va dire, la première partie du film au moins, mais dans le film au global, ces personnages sont écrits et filmés avec une vraie tendresse. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, dans l'écriture, dans la mise en scène, il n'y a pas de jugement de ces personnages-là. Ils sont pris comme ils sont, et en fait avec le point de vue de Louis et son fils, c'est-à-dire que nous en tant que spectateurs on n'y connaît pas forcément grand-chose, on entre là-dedans un peu sinueusement, on finit par s'y faire, et au fond c'est des personnages comme des autres entre guillemets, tout en étant assez spéciaux. Il y a le son dont tu as parlé, parce que le film a une manière extrêmement intéressante, je trouve, de filmer le son et plus particulièrement la musique, parce que du coup forcément film de rave party, film de musique et plus particulièrement de musique électronique. Et bah, là l'intérêt c'est que la musique électronique elle est pas dans un champ, elle est pas encore moins dans une salle, elle est en plein milieu du désert, et donc en fait ce qu'on voit quand on détourne les yeux des gros caissons de basse, et bah, c'est soit le désert à perte de vue, soit des gros rocs et rochers qui sont érigés là-dedans. Et ce qui est intéressant c'est que du coup au fur et à mesure qu'on a les pulsations de la musique électronique, ces différents rythmes, ces quelques mélodies, etc., et ben nous, ce qu'on voit, c'est les stratifications des rochers, et donc ces lignes, ces espèces de sillons qu'on voit sur les rochers du désert marocain. Et on a un peu l'impression que la musique s'écrit sur le paysage, et ça, c'est une idée.
Des formes d'ondes, ouais.
Voilà, c'est une idée assez formidable, je trouve. Après, et on y reviendra peut-être un peu plus tard en parlant plus précisément du film, quand la trame narrative se met vraiment en marche après une bonne heure de film, j'ai un gros problème moral avec le film, mais on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter.
Merci. Et toi, Badis, quel est ton avis global sur Sirat ?
De mon côté, moi, je rejoindrai un peu l'avis d'Aubry. C'est-à-dire, est-ce qu'on m'entend ?
Oui.
C'est-à-dire que, en sortant du film, je ne savais pas trop quoi penser, a priori, de ce qui venait de se passer. On va dire ça comme ça. Mais cela dit, après avoir un peu digéré le visionnage du film, j'ai vu il y a une semaine, je me suis rendu compte de ce qu'il pouvait y avoir peut-être d'assez génial dans tout ce qu'il y a d'assez inattendu dans ce film. Déjà, premièrement, la musique, en effet, alors même qu'on est dans un territoire assez désertique, enfin même totalement désertique, qui est prompt à la perte de soi-même, je reviendrai sur cette idée que la musique tend à faire territoire, voire même à faire communauté, d'une part avec les personnages avec lesquels nous sommes enfermés dans la salle et que nous suivons au fil de cette heure et demie, si je ne dis pas de bêtises, le film étant plus court que ce à quoi je pouvais m'attendre de mon côté. En tout cas, j'ai été très étonné par cette fin en queue de poisson. Mais encore une nouvelle fois, par le fait même que cette musique vient prendre au corps littéralement l'expérience de visionnage du film. D'autre part, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez génial dans l'ambiguïté morale qui est soulignée au fur et à mesure du film, par le fait même que finalement, lors même qu'on pourrait penser ne suivre qu'un road movie où l'objectif narratif est d'emblée posé au départ par cette recherche de la fille par le père, finalement, ce qui advient est pour ainsi dire une fable métaphysique. Peut-être que, ici, je prends peut-être un peu trop en compte ce carton introductif que j'avais totalement oublié lors du film et qui m'est revenu plus tard en réfléchissant au sens de cette traversée. Et traversée qui mène à une forme de pur événement qui suscite une tension dramatique extrêmement élevée. En tout cas, il est impossible de ne pas éprouver de sympathie à l'égard des personnages ou de ne pas être saisi par, ce qui leur arrive.
Merci beaucoup.
On peut peut-être rappeler le carton en question.
Bah, j'ai fait tout à l'heure.
Ah bah, pardon, autant pour moi.
C'est ok. Ouais, alors, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, qui était tous les deux très intéressant, évidemment, c'est que, sur ton dernier point, Badis, sur le côté métaphysique, le tour métaphysique et spirituel que prend ce film, il arrive à le faire sans non plus que ça devienne quelque chose de... sans perdre son côté pop, entre guillemets, hein, évidemment, sans perdre en tout cas toute l'esthétique qu'il avait déployée dans sa première partie de rave, de trance, de mouvement, de substance hallucinogène, entre autres. Et donc, c'est ça que je trouve assez, assez fort, en fait, même, c'est-à-dire que ce film, il arrive à s'inscrire tout à fait dans la généalogie d'une histoire du cinéma et de désert au cinéma. Qui fonde sur cet espace singulier en fait et hors de tout repère physique une réflexion métaphysique, mais en même temps il arrive à développer une identité qu'il maintient sur tout du long du film. C'est ça moi que je trouve assez assez fort, assez beau, que ce soit le désert des Tartares, que ce soit les désaxés. Il y a quelque chose de neuf aussi, tout en remobilisant des images qu'on a déjà vues, en fait, la silhouette de Sergi Lopez, par exemple, elle rappelle, toute proportion gardée, celle de Marilyn Monroe qui hurle dans le désert dans les Misfits de John Huston. Mais en fait, et parce que les deux films veulent dire une douleur humaine partagée, d'êtres qui sont déchirés par la vie et par l'impossibilité de vivre, et en même temps, c'est ça que on peut revenir peut-être sur la question du son et de la mise en scène du son, le film apporte, et ce qui à mon sens fait que ce film va durer et apporte un jalon assez important dans l'histoire du cinéma et du cinéma du désert.
Ouais, enfin, je te rejoins sur le côté, la musique apporte un truc et pour le coup fait la singularité du film. Pour moi, de toute façon, c'est son attrait principal. Après, je trouve que finalement, dans cette généalogie-là, donc on peut citer effectivement même les road movies désertiques, hein, les Mad Max.
Oui, on parle beaucoup de Mad Max.
Voilà,
dans la critique.
Auquel le film fait de toute façon, qu'il le veuille ou non, il s'inscrit dans cette continuité là mais même, pour le coup pas forcément dans le désert, mais c'est pareil, il s'inscrit clairement dans la continuité du duo Le salaire de la peur de Clouseau et son remake Le convoi de la peur ou Sorcerer de William Friedkin. C'est des films qui sont marqués par une grande violence de toute façon, et Sirat aussi est marqué par une grande violence, et je trouve que c'est là qu'en fait non seulement il rate le coche, ou en tout cas il pose problème, mais surtout il va pas forcément plus loin que les films prémentionnés, donc voilà. Mais je sais pas, disons que le problème que pose ce film, c'est que voilà, on s'est mis comme résolution avec Louis qu'on allait ne plus spoiler dans le comptoir du cinéma.
C'est un peu compliqué.
Voilà. Là, c'est vrai que bon.
Le problème, c'est que parler de Sirat sans parler de ce qui se passe, on va dire, dans la deuxième partie du film, c'est plus que compliqué.
On peut faire sauter cette décision pour le premier épisode.
On ouvre un coin spoiler.
On peut ouvrir une partie, en tout cas à partir desquelles il y aura du spoil. Je sais pas si Badis, tu veux commencer par parler de ses choix du coup un peu radicaux que j'évoquais dans le résumé.
Disons que à partir, mettons, de la moitié du film, la mort entre en scène. Voilà, pour, de façon extrêmement brutale et inattendue. C'est-à-dire que même si on vous spoil maintenant, finalement, lorsque vous regardez le film, il y a peu de chances que vous dites « Ah tiens, c'est ce fameux tournant qui a cours. Mmh. » Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné et qui relève un peu du caractère extrêmement dérangeant du film, c'est que cette première mort, c'est la mort du fils. Hein, voilà, donc plus aucun mystère.
Mais il a 7 ans, hein, donc c'est
très violent.
C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, en fait, d'une certaine façon, au cinéma.
Oui.
Voilà.
Mais ce qui fait que, du coup, le film devient, et c'est ce qui fait sa force, à mon avis, complètement inattendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait sauter cet interdit-là,
tout est possible.
Est absolument possible.
Totalement.
Et c'est là le problème.
Et c'est pour ça que finalement, d'une part, on veut totalement refuser ce qui va se passer par la suite. Et d'autre part, on est quand même pris dans cette destinée-là. Et y a quelque chose d'assez fascinant dans le fait d'espérer peut-être une lutte contre la destinée, entre guillemets, qui va être ouverte au personnage. Et donc, au fur et à mesure du film, de façon assez aléatoire presque, presque chacun des membres de la troupe va mourir. Pour ainsi dire.
Non mais oui.
Et justement, moi, ce qui m'avait marqué dans cette première mort, alors même qu'il pourrait y avoir quelque chose d'extrêmement grave dans l'événement, c'est qu'elle advient, mais presque sur un mode cartoonesque, c'est-à-dire que, bon, je décris la scène, la voiture tombe d'une falaise, on l'entend rouler, et finalement, d'une seconde à l'autre, l'enfant n'est plus. À l'image du père, finalement, on est obligé de faire un deuil qui est impossible.
C'est pire que ça, c'est qu'on n'a pas le temps de le faire,
oui,
en fait. Parce que si on pousse la description, formellement, en fait, ce qui marque la scène, c'est qu'effectivement, on voit, dans les yeux du père, en fait, on voit cette camionnette qui chute de la falaise. Donc, on la voit disparaître du plan. Et nous, notre idée, c'est que non, il ne peut pas avoir tué ce personnage-là, pas maintenant, pas comme ça, ce n'est pas possible. Et nous, en fait, en tant que spectateur, on a envie plus que tout de poser les yeux sur ce ravin et d'y voir le gamin accroché à une pierre ou qui...
Comme dans un cartoon, en fait.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en plus, quand on est dans le désert, il y a vraiment cette imagerie voilà. Des coyotes, d'accidents un peu débiles, comme tu viens de le dire, Badis.
Sauf qu'en fait, ce plan-là, on ne l'aura jamais. On va garder ça hors champ, parce qu'en fait, les autres personnages retiennent Louis en lui disant « ça ne sert à rien de regarder, je veux dire, la bagnole, elle a explosé, etc. » Et ce qui fait qu'en fait, les personnages repartent direct en route après et... Eux comme nous, en fait, on n'a pas le temps, ni l'espace, ni même la possibilité formelle dans le film de faire ce deuil-là.
Oui, mais en même temps, c'est ça qui, ça va dans le même sens du film qui, d'une certaine façon, quand tu dis qu'on devient un peu des personnages du film, en tout cas dans nos émotions, ça va dans le sens du film quand il est contaminé par la transe, en fait, d'une certaine façon, qu'il cherche à montrer et qui donc rend ces interruptions radicales d'autant plus frappantes quand on ne s'y attend pas et quand on ne les connaît pas. C'est que, comment dire, le film se déroule vraiment quand j'ai réussi de faire le résumé tout à l'heure. En fait, c'est assez dur de surtout à partir de sa deuxième partie quand il quitte la première rave et que en fait le film commence puisque le carton titre arrive au bout d'une vingtaine de minutes. En fait, le film cherche vraiment avec cette musique techno en continu, donc d'ailleurs que j'ai pas cité le nom de l'auteur Kang Din Rei, cherche à vraiment te prendre dans un flux. Dans le flux dans lequel les personnages sont, qui est un flux aussi, et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait revenir, qui est un flux conscient et volontaire de désertion. Moi, c'est ça que je trouve aussi chouette dans ce film, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est sa force en fait politique, d'une certaine façon, parce qu'on pourrait croire à un apolitisme assez cynique, etc. Et en réalité, ce qu'il montre, et ce à quoi on réfléchit au fur et à mesure que le film infuse en nous, c'est que ces personnages, ils ont consciemment voulu quitter le monde moderne et il se prépare en réalité à une chute que le film n'arrête pas de nous rappeler d'une manière ou d'une autre et qu'il rappelle après de manière extrêmement violente puisque comme on est dans la partie spoil, en fait les autres personnages meurent en marchant sur un champ de mine, donc ils sont rattrapés par la guerre, donc ils sont rattrapés par le monde réel. Mais donc en fait ce que fait Alatché, c'est qu'il interroge aussi la possibilité d'une utopie, la possibilité de continuer, alors que et c'est ça que fait en fait cet arrière-plan continu de la guerre. Le monde est fichu. En fait, globalement, c'est ça ce qu'on nous dit. Le film, il travaille tout un imaginaire. Alors, on ne sait pas si c'est une troisième guerre mondiale. En même temps, le fait, comment dire, ces menaces militaires qui pèsent sur des ravers, c'est quand même difficile de ne pas penser au massacre du 7 octobre, ont attaqué une rave au départ. C'est aussi difficile de ne pas penser au conflit qu'il y a dans le Sahara occidental, puisqu'on nous parle d'une frontière entre le Maroc et la Mauritanie, sauf que du coup, c'est nier l'existence du Sahara occidental. Enfin, c'est tout un tas de choses qui fait que le film reste, en dépit de ce qu'on pourrait croire, de part en part dans notre actualité et qui fait sa force aussi, d'une certaine façon.
Moi, c'est là que j'ai deux problèmes.
Ouais. J'aime bien le côté désert des Tartares, vraiment, de ce...
Ah non, mais je dis pas le contraire. Mais en fait, je passe un très bon moment devant le film et quand je sors du film, je me dis que j'ai un gros problème avec le film. Mais...
c'est déjà ça.
Voilà. Mais disons que, même sur le côté politique, le problème que j'ai, c'est que... alors oui, il y a ces éléments que tu peux rattacher à quelque chose de concret, la guerre, le monde qui s'écroule, entre guillemets, et ces personnages-là qui veulent le fuir. Le problème, c'est qu'en fait, Lakshé, à force de... entre guillemets, tout abstraire, parce que quand on dit tout, c'est que oui, on est dans le désert, dans le Sahara, mais bon, le Sahara, c'est grand, et en fait, on finit par juste être dans le désert comme un espace abstrait. Et il y a toute cette tension vers une forme d'abstraction qui est accompagnée par le rôle de la musique dans le film, et qui, pour le coup, est vraiment genre la composante principale de son esthétique, qui fait que ça entre un peu en choc avec cette volonté de rattacher à un truc de concret, et je trouve...
Mais tu trouves pas qu'il arrive justement à maintenir les deux en même temps ?
Pour moi, c'est inégal, en fait. C'est un espèce de truc qui tient pas trop, ou alors qui tient sur un fil. Et comment dire, en fait, ça se conjugue au deuxième problème du film, qui est que à partir du moment où il y a cette première mort qui, comme tu l'as dit, ouvre tous les possibles parce qu'elle est impossible et parce qu'elle brise en fait un interdit moral, entre guillemets, qu'on aurait au cinéma... en fait, à partir de là, personnage comme spectateur et spectatrice, on est littéralement prisonnier en fait du réalisateur scénariste à sa merci, parce qu'en fait, on est dans une situation où, puisque le personnage le moins vulnérable, enfin celui qui est le plus protégé par le scénario, est mort en premier, si vite frontalement comme ça, en fait, tout le monde peut mourir et ça devient juste un vaste jeu de la mort sur toute la deuxième partie du film. Et nous, on est pris en otage. Parce qu'en fait, on sait que les personnages vont mourir. On attend juste de voir dans quel ordre, quand et comment. Et je trouve ça moralement excessivement douteux, surtout quand ça va avec le reste du film, le reste des éléments du film qui tendent vers cette abstraction-là. Et pour le coup, c'est aussi, on va dire, là je suis un peu de mauvaise foi, c'est aussi un peu aidé par les propos d'Oliver Lackey à gauche à droite en présentant le film, qui n'est pas forcément le mec le plus adroit pour parler de son film, paradoxalement.
Ça arrive.
Concernant le rapport à la gare ?
Oui, ou sur ce que tu veux.
Moi, je dirais. Certes, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Aubry. Cependant, pour revenir à cet espace désertique qui se donnerait comme espace abstrait, je ne suis pas tout à fait d'accord, dans la mesure où, finalement, c'est un espace d'abord de la communauté des marginaux, cette communauté des fêtards, qui, finalement, devient petit à petit un espace de solitude, à mon sens. Qui permet de comprendre comment il devient impossible pour cette troupe de s'abstraire totalement de cette guerre. Et finalement, ça nous en dirait beaucoup de ce que pourrait être de vivre une guerre ou de la refuser. C'est-à-dire que celle-ci va surgir par esquisse, par message à la radio, par la présence de différents militaires. Mais finalement, cette imagerie de la guerre est assez originale en ce sens. La guerre ici est plutôt signifiée par son absence et par son extrême violence qui vient rompre justement toute logique narrative. Et il me semble que ce scandale moral du film pourrait ici faire signe vers ce que pourrait signifier le scandale de la guerre pour ces petites vies qui, pour chacune d'entre elles, ont pourtant refusé d'y participer.
C'est intéressant, oui. Parce que là où je suis d'accord, c'est pour le coup, je vous rejoins que le film est politiquement intéressant, c'est sur ce mouvement de essaye de fuir la guerre, mais au sens de t'en abstraire, en fait, de faire, de te réfugier là où elle n'existe pas pour faire comme si elle n'existait pas et au fond, en fait, la rejeter hors de ta pensée, de ton imaginaire, de ta conception du monde alors qu'elle est bien là. Et bien, en fait, fuis comme ça. Et en fait, elle te retrouvera d'autant plus facilement. C'est un peu la morale, entre guillemets, du film grossièrement dessiné. Ça, je trouve ça, pour le coup, assez intéressant. Mais comment dire, dans la manière dont le film le fait, je suis moins convaincu. Et notamment ouais, par cette manière de jouer avec les personnages.
Bah moi, je trouve que justement, enfin, je veux dire, sur cette question de sortie, en fait, de porte de sortie, d'un monde qui va à volo, donc qui est la question de la guerre, et qui serait donc cette désertion, mais dont en même temps Lackey montre les limites, puisque les personnages sont rattrapés, etc. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le film, c'est la porte de sortie spirituelle, en fait, finalement, qui demeure, enfin, qui semble être celle, en tout cas, vers laquelle le film t'invite à aller. Et son originalité, là encore, est de faire de la musique techno, de la rave, le marchepied de cet échappatoire spirituel-là. C'est assez fort, je trouve, et de en fait partir, et ça rejoint en même temps, Aubry, ce que tu disais sur ce côté tellurique, et pour utiliser vraiment un mot bien snob, ctonien,
pièce dans la tirelire.
Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, de filmer le son vraiment avec, en même temps que des paysages massifs, terrestre, de montrer aussi la façon dont les gens cherchent à s'incarner à l'intérieur du son. Enfin, il y a un plan, moi, qui est vraiment très très fort, d'un mec torse nu qu'on connaît pas, mais qui enlace une enceinte et juste pour intégralement faire qu'un avec les vibrations. Enfin, et dans un but, en fait, au fond, sans que le personnage d'ailleurs peut-être ne se l'avoue ou quoi, mais tout à fait spirituel. Moi, ça me touche en fait. C'est là que, en fait, plus j'y pense, plus le film m'a ému, ce qui n'était pas le cas quand je suis sorti, où j'étais juste, je sais pas, ébouriffé. Non, c'est pas la question. Bref, voilà. Mais c'est ça. Bref, et ce que je trouve assez fort, et c'est un peu ce que tu disais aussi, Badis, c'est le côté. Enfin, ramener à un pur rythme qui sert la transe et en fait qui, au fond, et ce qui m'intéresse aussi en fait dans le cinéma en général, la façon dont ça devient presque une transe antique, une transe tribale, dans ce. Ouais, d'élévation en fait, voilà, de lamentation aussi à la fois. Enfin, ouais, qui fait aussi son originalité. À nouveau, mais là je vais me répéter, donc je vais peut-être arrêter là.
Ouais, mais tu vois, enfin, mine de rien, ça transparaît dans tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que tu dis, oui, le film tend vers, je sais pas, un pur rythme, une pure élévation de la spiritualité et tout, sauf que, en fait, le problème que j'ai, c'est que cette espèce de coquille spirituelle dans le film...
Bah, pour moi, c'est pas une coquille, c'est une structure.
Bah, ouais, mais pour moi, c'est une coquille, enfin, tu vois, c'est... Mais... Et en fait, pour moi, surtout, c'est... ce que je vois là-dedans, c'est pas forcément l'élévation spirituelle de personnages qui se disent... Oh bah tiens, je vais mourir dans 2 secondes ou alors pas du tout, qu'est-ce qu'on fait, etc. Moi ce que je vois, c'est surtout le réalisateur scénariste qui se met en dehors de ça et qui en gros se la joue un peu figure divine qui peut tout et rien. Et finalement, bah, ça ressemble plus juste à un épisode de Saw que... comment dire, qu'à un vrai truc spirituel. Mais là je grossis les traits, tu vois. Mais enfin, ouais. Il y a un peu de ça et c'est là que j'ai un vrai problème moral avec le film. C'est sur cette posture-là, parce que comment tu veux te rattacher à des trucs vraiment si concrets que ça, si tu tends que vers des trucs purs ou essentialisants
Je trouve vraiment qu'il arrive à faire les deux par la mise en scène, justement. C'est-à-dire qu'on sent son intention, et en même temps, il reste dans le concret et tout. Après, j'ai des critiques aussi sur la question de l'esthétisation du désert, et notamment en fait, comme un lieu où personne ne vivrait, en dépit de petites... Enfin, le fait que bon, tout le casting soit intégralement européen et qu'on voit juste un bédouin et un pompiste qui ne parlent pas espagnol ou anglais ou français...
Même dans les péplums, on n'avait pas ça.
Non, mais voilà, mais tu vois, j'ai pas ce problème moral-là, on va dire, avec le film que toi, tu as.
Tu n'as pas de cœur, c'est tout.
Peut-être que si, justement.
Moi, de mon côté, la dimension spirituelle du film ne m'a pas tant frappé que ça. Encore, certes, la remarque de Louis sur la musique et son côté vraiment de trance antique, je la partage. Mais cependant, elle échoue à recouvrir un silence vis-à-vis du cours de ces événements qui reste quand même extrêmement prégnant en soi. Moi, je ne vois pas forcément ces rêves parties ou cette musique comme peut-être une autre voix mais face à cette guerre et cette tragédie. Du moins, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que pourrait signifier cette approche-là.
Bon, et bah c'est sur ces interrogations qu'on va conclure notre débat sur Sirat, épisode un peu plus court du fait que nous sommes en direct. Et avant les quelques conseils que nous pourrons vous donner pour cette semaine, eh bien, on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'à l'occasion d'une rencontre au Comédia, au cinéma Comédia, notre partenaire bien-aimé ici à Transistor.
On les remercie.
Voilà, Aubry et moi, on a pu rencontrer Sergi Lopez, donc le comédien principal, avec qui on a pu échanger, nous et d'autres journalistes locaux de Lyon. Et cet échange sera bientôt disponible sur Spotify et sur le site transistor.fr. Et vous en avez l'habitude ou non, et ça ne va pas changer pour cette troisième saison, nous concluons toujours l'émission par quelques conseils, films en salle, films coup de cœur, films sur les plateformes, livres, séries, que sais-je. Aubry, premier conseil de cette saison 3, qu'est-ce que tu nous recommandes ?
Eh bien écoute, on va faire simple la base, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, Sirat, ça s'inscrit dans toute une généalogie de films, et de films qui sont vachement intéressants et vachement sympas à voir. On l'a dit, on a parlé de la saga Mad Max, dont on a eu le dernier opus l'année dernière. Donc n'hésitez pas à voir la saga Mad Max, parce que quand même, pour penser un road movie dans le désert sans parler de Mad Max, c'est un peu compliqué, dans le sens où c'est devenu une référence intégrée, inévitable, etc. Et plus précisément pour ce qui est de Sirad, parce que je pense que c'est des films qui sont plus proches, allez voir Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot, et encore plus précisément et plus particulièrement, parce que un peu plus oublié, le remake qu'en a fait William Friedkin à la fin des années 70, donc Le convoi de la peur, Sorcereur en VO, qui est un film absolument génial et tétanisant, pour le coup, en fait, dans lequel on se perd, dans lequel on a le même genre de problèmes moraux, mais pour moi beaucoup mieux agencé et mis en scène, avec tout un tas d'acteurs absolument géniaux, de Roy Scheider à Bruno Kremer, et qui a ce même côté tétanisant dans les événements qui se passent, dantesque dans ce qui est représenté, parce que là, c'est plus le désert, c'est en gros un convoi qui transporte de la nitroglycérine, donc en gros une énorme bombe dans un petit camion, et qui traverse toute l'Amérique du Sud pour transporter cette nitro-là. Et toute l'Amérique du Sud, ça veut dire les petits ponts qui ne tiennent pas, les orages, les routes de crête sur les montagnes et des étendues un peu désertiques. Bref, c'est la version plus subtile, je dirais, plus réussie de Sirat, un peu son grand frère. Donc, si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus.
Et tu n'as pas dit que Le salaire de la peur avait connu un remake avec Franck Gastambide qui est sorti sur Netflix l'année dernière.
On s'en garde. Même si vous avez Netflix, vous n'êtes pas obligé d'aller voir Le salaire de la peur de Franck Gastambide. Préservez vos yeux, s'il vous plaît.
Et mon conseil à moi, c'est un film qui est sorti cet été, donc, et qui, je pense, n'est plus en salle, mais qui sera probablement bientôt sur Mubi ou autre plateforme un peu snob, mais chouette quand même. C'est un film japonais qui s'appelle Super Happy Forever. Qui est un film qui est assez, vraiment très très beau, très très touchant, qui a des dehors, alors certes un petit peu de films d'auteurs asiatiques, puisque c'est réalisé par le japonais Igarashi Kohei, mais qui a d'une délicatesse et d'une intelligence assez forte. Alors certes, donc, ce que je disais, c'est dehors caricaturaux, c'est peu de dialogue, une intrigue et un dispositif minimaliste. On est vraiment le plus souvent au bord de la plage, etc. Mais c'est donc un film sur le deuil d'un jeune homme qui va, 5 ans après avoir rencontré son épouse qui vient de mourir dans l'hôtel où ils se sont rencontrés précisément. Et en fait, ce que je trouve très très beau, c'est que c'est la force, un peu comme dans Sirat finalement, de la mise en scène, de la photographie qui t'invite à avoir, enfin qui décuple en fait les émotions de façon à nouveau très discrète, très pudique, et il y a un jeu avec la mer puisque ça se passe donc non loin d'Okinawa. Qui te rend, qui vraiment t'émeut beaucoup. Et je vous conseille sincèrement Super Happy Forever si vous avez un moyen de le trouver ou de le voir, parce que ça recèle une puissance douce qui sait parler de la perte autant que ça sait filmer la naissance d'un amour ou d'une amitié. Et en parlant d'amitié, en fait, à la fin du film, je spoil rien, mais l'intrigue se déporte vers un autre personnage et arrive à déjouer les derniers attendus qu'on pouvait avoir sur Super Happy Forever, donc de Igarashi Kohei. Donc tous ces conseils, merci. Vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci beaucoup à tous les deux, Badis, et Aubry pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Oui de Nadav Lapid et on va s'amuser. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma, vive Transistor et puis vive la saison 3 du comptoir du cinéma.